Chapitre 7. Quand elle se réveilla et regarda autour d'elle, les yeux plissés, Callan fut contente de constater que l'aube se levait à peine. Se redressant, elle vit que Val était en train de réveiller ses deux collègues. Pas très loin de là, Nietzsche faisait déjà des ablutions sommaires au bord du cours d'eau. La lumière encore hésitante de l'aube suffirait pour que les voyageuses voient où elle mettait les pieds. Nietzsche n'aurait donc pas besoin d'invoquer une nouvelle flamme. Bâillant et s'étirant, Callan songea qu'il serait plus facile de voir d'éventuels attaquants en plein jour. Ensuite, il resterait à décider de se battre ou de fuir. Alors que 2 heures au moins s'étaient écoulées, l'inquisitrice aurait juré avoir dormi à peine quelques minutes. Elle manquait toujours de sommeil, mais ça allait quand même un peu mieux, et il faudrait faire avec, songea-t-elle en se levant. « Vous nous avez fait un très beau lit, » dit-elle aux trois morts de site, « mais il est temps de repartir. » Les femmes en rouge sourirent. Leur tournant le dos, Callan se dirigea vers Chasseur, perché sur un rocher. Dès qu'il la vit, toutes ses compagnes sur les talons, il sauta à terre et fila, ouvrant la marche. Le dos en compote, Callan se sentait plus raide qu'une centenaire. Posant une main sur son ventre, elle sourit en y sentant la chaleur résiduelle de Chasseur qui était resté tout le temps près d'elle. Alors que le jour se levait sous un ciel plombé, le petit groupe atteignit l'extrémité d'une crête, d'où on avait une vue plongeante sur la forêt. Il restait encore tant de chemin à faire avant de rejoindre les montagnes. « Le village des gens qui vivent avec la voyante est dans un col, » dit Nietzsche. En d'autres termes, la destination était encore très loin, au-delà d'une forêt hostile. « Nous ne sommes pas encore arrivés. » Pour repousser l'accablement que lui inspirait cette idée, Callan se concentra sur ce qu'elle dirait à Rouge une fois sur place. Lors de cette conversation, elle n'aurait pas droit à l'erreur. Chasseur s'engagea sur la pente et regarda derrière lui pour encourager les 5 humaines. Au pied de la crête s'étendait une forêt très dense, qui recouvrait une série de collines basses, pas de montagnes, mais des obstacles à ne pas négliger. Guide de génie, Chasseur trouva un chemin si dégagé, enfin relativement, que le petit groupe alla bon train et sans trop puiser dans ses réserves. Puis les 5 femmes se retrouvèrent au bord d'un ravin infranchissable qui semblait fendre en deux toute la gigantesque falaise. Les bords n'étaient pas vraiment très éloignés, mais beaucoup trop pour qu'on puisse sauter. Les racines qui saillaient sur les 2 flancs de ce ravin ne supporteraient pas le poids d'un corps humain et la roche semblait de toute façon trop friable. « Descendre paraissait impossible, » constata Callan. De plus, remonter de l'autre côté serait un exploit irréalisable. Avant que les 5 femmes aient eu le temps de se mettre en quête d'un meilleur endroit où traverser, Callan vit Chasseur sur l'autre bord du ravin. Comment avait-il fait? Dès qu'il s'aperçut que son ami l'avait repéré, le félin bondit vers la gauche comme s'il voulait qu'on le suive. « Allons voir ce qu'il veut nous montrer, » dit Callan. « À l'évidence, il connaît un moyen de traverser. » Par endroits, le bord du ravin s'était éboulé, entraînant des arbres dans le gouffre. Au bout d'un moment, le petit groupe dut couper par la forêt pour contourner un bosquet d'arbres et de broussailles totalement impénétrables. Certains arbres, en quête de lumière, s'inclinaient vers le gouffre. Des lianes pendaient de leurs branches, mais elles semblaient trop fines et trop fragiles pour qu'on s'y suspende. En émergeant de la forêt, le détour terminé, Callan vit que Chasseur les attendait, assis sur un tronc d'arbre mort qui s'était écroulé en travers du ravin. Dès qu'il eut aperçu les 5 femmes, l'animal acheva sa traversée et sauta sur l'autre bord. Le chemin à suivre, semblait-il. Chasseur était passé sans difficulté. Certes, mais il était petit, il avait un centre de gravité très bas et il disposait de griffes pour s'accrocher s'il tombait. Cela dit, il n'avait pas paru redouter une chute. Là encore, il se montrait très félin, aucune crainte des hauteurs. Quand elle baissa les yeux sur le gouffre, Callan sentit son cœur s'accélérer. « Chasseur, nous n'allons pas pouvoir traverser comme toi !» Le félin regarda Callan comme s'il ne comprenait pas le problème. L'inquisitrice était pourtant sûre de son fait. Pour ne pas se mouiller, elle était capable de faire de l'équilibrisme sur un tronc quand il s'agissait de traverser un petit cours d'eau. Mais sur une telle longueur et en surplombant un abîme mortel, surtout avec le bois rendu glissant par la pluie, la seule idée de tenter cette folie glaça les sangs de la jeune femme. « Nietzsche, tu as une idée? On ne pourra pas faire comme Chasseur. »«
Bien sûr que si !»
lança Cassia. Sans plus d'explication, elle s'engagea sur le tronc, se mit à 4 pattes et rampa. En un éclair, elle eut atteint l'autre côté du ravin.
« Vous voyez ?» dit-elle en se relevant. « Un jeu d'enfant !»
Secouant la tête comme si elle n'en croyait pas ses oreilles, Val traversa sur ses deux jambes, les bras lui servant de balancier. On eût dit qu'elle avait fait ça toute sa vie.
« N'essayez pas de l'imiter !»
conseilla Cassia.
« Ma façon de procéder est plus simple !»
Toujours consciente que le temps pressait, Callan opta pour la méthode Cassia. Le contact de l'écorce semblant particulièrement râpeux contre ses paumes et poisseux là où de la sève en suintait, elle traversa avec les yeux rivés sur Cassia et Val, histoire de ne surtout pas voir le gouffre. Cassia n'avait pas menti. En très peu de temps, Callan, Nietzsche et Lorine furent de l'autre côté. L'inquisitrice, il fallait l'avouer, avait surestimé l'obstacle. La progression reprit, chasseur ouvrant toujours la marche. Très vite, le petit groupe arriva devant un nouveau ravin, mais celui-là dominait une étroite vallée boisée qui semblait plutôt accueillante, des arbres à feuillage remplaçant les pins et les ronces. De plus en plus pressé, chasseur dévala la pente douce. En bas, le sol plus fertile était un tapis d'herbes constellé de petites fleurs blanches. Des chênes, des bouleaux et des frênes poussaient sur les deux flancs, délimitant une sorte de piste. Dès que ses troupes l'eurent rejoint, chasseur fonça en avant et disparut dans un bosquet très dense. Agir ainsi ne lui ressemblait pas. Voulait-il s'assurer que le chemin était libre? Avait-il senti la puanteur des demi-humains? Quoi qu'il en soit, Callan jugea troublant qu'il se volatilise ainsi. Faisant coulisser l'épée de vérité dans son fourreau, elle fut rassurée par sa présence et la laissa retomber. Après avoir traversé le bosquet, les cinq femmes découvrirent une vaste étendue semée de chênes majestueux. Loin devant, au bord d'un cours d'eau peu profond, sur une berge de galets, il y avait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Chasseur avait pris place sur un rocher d'où il regardait couler l'onde cristalline.
« Je sens une odeur de viande qui cuit, » dit Val.
Callan avait capté la même odeur. Et on apercevait la fine fumée d'un feu de cuisson.
« C'est la voyante !»
souffla Nietzsche, le regard rivé sur la silhouette.
« Tu es sûr? De si loin, je ne la reconnais pas.
Moi, je n'ai pas besoin de la voir. Avec mon don, je sens son pouvoir. C'est impossible à manquer. »«
Je déteste ça !»
marmonna Cassia.
« La magie, moi !»
Sans attendre d'avoir mis au point un plan, Callan se dirigea vers la lointaine silhouette. Son objectif était de savoir si Rouge pouvait les aider et si oui, de la convaincre de le faire. Ça n'était pas plus compliqué que ça. Quand elle fut assez près, Callan vit que plusieurs brochettes cuisaient sur un lit de braise. Agenouillée, la voyante retournait son feu avec un gros bâton. Bizarrement, Rouge portait une somptueuse robe grise qui aurait été plus à sa place dans une salle de bal. Même si ça faisait un peu ridicule en pleine nature, Callan se sentit gêné de ressembler à une mendiante, avec sa robe tachée de boue et ses mains poisseuses de sève. Contrastant avec les fascinants yeux bleus de la voyante, ses cheveux roux bouclés paraissaient presque écarlates. La robe grise, comprit Callan, avait pour mission de souligner l'éclatante couleur de la chevelure et des yeux de rouge. Si étonnant que ce fût, la voyante ne devait pas son nom à sa flamboyante rousseur.
« Te voilà, mère inquisitrice !»
dit Rouge en levant les yeux.
« Juste à temps !»«
Attends pourquoi ?»
demanda Callan méfiante. Elle s'immobilisa à bonne distance de la voyante.
« Pour le repas, bien sûr !»
s'exclama Rouge, écartant les bras comme si ça allait de soi.
« Tu nous attendais ?»
Rouge désigna chasseur.
« Ne t'ai-je pas envoyé ton cher ami pour t'inviter ?»«
C'est ce que je me suis dit. Rouge, je te présente Cassia, Lorine et Val, et voici Nietzsche. »«
Je sais, oui. La magicienne que tu aurais dû tuer. »
Callan ignora la critique.
« J'espère que leur présence ne te dérange pas. »«
Pas le moins du monde. » « J'ai mes propres protections et je ne te blâme pas d'avoir les tiennes. En fait, au point désastreux où nous en sommes, je tiens ça pour une preuve de sagesse. »«
C'est pour ça que je suis ici. le désastre justement, et tout ce qui est en jeu.
Oui, oui, bien sûr. Mais auriez-vous l'obligeance de prendre un rocher, si j'ose m'exprimer ainsi, et de vous asseoir dessus? Le repas est prêt.
Callan et Nietzsche se regardèrent.
Tu nous as préparé à manger?
Quelle question! J'attendais 5 invités et je savais qu'elles auraient l'estomac vide. Croyez-moi, évoquer le royaume des morts quand on n'a rien dans le ventre n'est pas une bonne idée.